Aujourd'hui, je voudrais vous lire dans le livre de la Genèse, le troisième des grands mythes qui sont au début donc de ce livre. C'est le récit de Caïn et Abel, au chapitre 4. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Et elle dit, « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn fut cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son troupeau avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Mais pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient tous les deux dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu lui dit, « Mais qu'as-tu fait ?» La voix des sangs de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Et maintenant tu seras maudit, loin de la face du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse, et tu seras étranger et tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui, loin du sol. » Et je devrai me cacher loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, non, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Alors ensuite, je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Jean, un passage au chapitre 9, où l'on voit Jésus agir pour aider quelqu'un qui est aveugle. Jean 9, à partir du premier verset, voilà. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, mais qui a péché lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait clair. Puis enfin, deux petits versets dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets à partir du verset 12. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des hommes intelligents. Jugez par vous-même si ce que je vous dis est vrai. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter dans le petit recueil Louange et prière le cantique 319, Seigneur dans ma souffrance, les quatre strophes de ce cantique 319. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache et toi que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement à toi, afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts pour me sauver. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, et que j'aie en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me commandes d'aimer. Caïn a le souffle coupé par tant d'injustice et d'humiliation. Le premier, il a inventé ce beau geste qu'est l'offrande pour Dieu. Abel a suivi. Et résultat, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur son offrande, sur Caïn et sur son offrande. Et le texte ne nous donne aucun motif à ce refus. C'était pourtant l'occasion de nous donner une bonne petite leçon pour la juste relation à Dieu. Mais non, ce texte ne nous parle pas de cela, mais seulement de cette expérience humaine fondamentale qu'est celle de subir l'injustice et l'humiliation. Alors les premiers chapitres de la Genèse explorent l'essentiel de la condition humaine. Ce récit que nous venons d'entendre est le troisième des grands mythes qui ouvrent la Bible. Le premier est celui de Dieu comme source de vie, faisant reculer le chaos par sa parole et créant l'homme. Le deuxième mythe est celui du péché de l'homme quand il choisit comme Dieu son propre désir à la place du Créateur. Et donc le troisième grand mythe est celui de Caïn. Caïn face au sentiment d'injustice et d'humiliation. Parce qu'après avoir dit dans le premier mythe l'immense élévation de l'humain, créé à l'image même de Dieu. Les deux mythes suivants disent ce qui peuvent tuer l'homme, ce qui peuvent le faire chuter. Dans le deuxième mythe, donc, l'homme se place plus haut qu'il n'est en réalité. Dans le troisième mythe, l'homme est au contraire écrasé par le sentiment d'humiliation et d'injustice. Et nous avons ici, dans ces deux récits, les deux plus grandes difficultés qui sont les nôtres. Le péché de base, et puis la morsure de l'injustice de la vie en ce monde que nous ressentons si souvent. Alors à chaque fois, l'épreuve ne vient pas de Dieu, et à chaque fois, au contraire, Dieu intervient finalement pour sauver l'homme. Il n'y arrive en fait qu'en partie à chaque fois, laissant apparaître un humain gardant des cicatrices de ses chutes, mais quand même un humain en marche et faisant de grandes choses, comme Adam et Ève à la sortie du paradis, et puis comme Caïn et sa descendance, qui vont ensuite construire des villes. Alors donc, prenons courage, Dieu ne nous laissera pas tomber comme une vieille chaussette, c'est la première leçon peut-être de ces deux récits de chute. pas même quand nous sommes coupables, et certainement pas quand nous sommes frappés par l'injustice et par une cruelle humiliation. Le bébé qui vient de naître est un peu comme Adam et Ève dans la Genèse. Il est complètement égocentrique, il se trouve digne d'être servi et adoré par tous, et à commencer par ce Dieu qu'est sa tendre maman. Il lui faudra apprendre qu'il a une autre place, une autre vocation dans ce monde. L'enfant ensuite fait rapidement l'expérience du sentiment d'injustice, peut-être dès le sevrage en fait. Nous y sommes infiniment plus sensibles à l'injustice qu'à la notion de justice, car la notion de justice, ça demande déjà une véritable évolution dans une visée au-delà de nous-mêmes, vers quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Donc c'est plus difficile, bien sûr, plus abstrait la justice. Alors qu'à la moindre petite injustice, la moindre humiliation, même un tout petit enfant est très profondément atteint, blessé. Et nous aussi, et nous toujours, bien entendu, sommes blessés, atteints par l'injustice. Alors il nous faut donc apprendre à démasquer ce danger-là aussi, finalement, et à l'affronter. Et cette page de la Bible décrit bien, en effet, ce que nous connaissons tous. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'injustice fait monter la colère, et la colère, finalement, elle ruine notre liberté. Elle nous prend par le bout du nez, plein de moutarde, et un voile noir obscurcit nos yeux. L'humiliation, elle, nous fait nous sentir moins que rien, comme Caïn et son visage abattu, planté en terre, se sentant rejeté de tous et même de Dieu, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Nous le verrons dans la suite du récit. Et à ce moment-là, se dit-il, à quoi bon faire quoi que ce soit, finalement? Mais au moins, sur ce plan-là, Dieu peut faire des miracles. Il peut ouvrir les yeux de l'aveugle et il peut faire danser le paralytique, planté en terre. Alors c'est vrai que la vie est injuste. Il y a des inégalités partout. Certains naissent pauvres dans un pays en guerre, d'autres naissent riches au pays de Cocagne. Certains naissent avec une intelligence vive et d'autres butent sans arrêt, contre tout, ne comprenant pas grand-chose. Et puis il y a la maladie, et puis il y a des chances incroyables qui nous tombent dessus. Oui, tant d'injustices qui n'ont souvent absolument aucune cause, ni morale, et encore moins divine. Cette histoire de Caïn montre l'homme frappé par cette expérience universelle que la vie est injuste, et que le mal nous frappe, parfois, sans aucune cause raisonnable. Il peut alors nous arriver de chercher une cause à ce malheur et d'en inventer une plutôt que d'être ainsi face à cet absurde. Alors nous inventons parfois un dieu méchant, un diable, un démon, un Satan, ou une mauvaise conjonction des planètes, ou la faute aux immigrés, que sais-je. Il nous arrive même de nous en prendre à nous-mêmes, finalement, pour le mal qui nous arrive, pour au moins tenter de lui donner du sens. Il n'en a pas nécessairement. Dieu est encore en train de créer le monde et donc il subsiste une part importante de chaos dans ce monde qui distribue des cartes au hasard. Alors il n'y a pas que ce hasard, mais il est présent bien sûr. Et même si ces malheurs étaient en partie la faute de Caïn, le texte n'en dit pas un mot et finalement ce n'est pas la question. Puisque de toute façon, même au coupable, Dieu veut le meilleur, donc le malheur est toujours injuste. La question n'est donc pas finalement celle de la cause du malheur qui frappe Caïn, de son éloignement, de cette humiliation. Mais le sujet de ce texte, à mon avis, c'est plutôt celle de ce sentiment d'injustice qui nous frappe et le risque que cela présente pour nous et notre entourage et ce qui aurait pu être fait pour éviter ce risque. Dans cette façon de raconter l'histoire, la Genèse nous dépréoccupe en fait de la question de l'origine du malheur qui nous frappe. Et cela pose le pardon de Dieu comme une base solide. La question maintenant, en fait, est centrée sur celle de gérer notre déception, d'être dans un monde qui n'est pas encore fini et dans lequel il reste du mal qui nous frappe comme au hasard. Cette attitude face au mal est reprise par Jésus quand il rencontre, nous l'avons entendu, un aveugle de naissance. Et que ses disciples interrogent Jésus pour savoir qui a péché, pour que cet homme connaisse ainsi cette injustice, car effectivement, être né aveugle, c'est pas sa faute, ce n'est pas forcément la faute des parents non plus, je ne vois pas très bien comment ça aurait pu arriver. Et Jésus répond finalement, comme cette histoire de la Genèse, que la question du passé n'est pas la question, la cause du mal n'est pas la question. Mais puisque le malheur est là, nous dit-il, il faut que nous fassions ensemble les œuvres de Dieu pour créer, pour soigner, pour libérer, de toute façon, toujours. Alors comment réagir quand nous sommes frappés injustement? Comment arriver à être plus fort que cette colère et que ce sentiment d'humiliation qui nous fait nous sentir être plus rien du tout? Même dans la pire catastrophe qui nous arrive, il y aura toujours quelqu'un de bien intentionné pour nous dire que quelqu'un a connu pire et qu'il s'en est sorti. C'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui a connu pire et qui s'en est sorti. Par exemple, Martin Gray, qui est passé par Auschwitz, excusez-moi du peu, qui a perdu toute sa famille dans les camps nazis, et puis ensuite qui a pu reconstruire sa vie, et qui a perdu une deuxième fois toute sa famille dans un incendie de forêt, et qui encore a rebondi, et encore rebondi, continuant à vivre comme témoin de la beauté de la vie et engagé dans de belles œuvres humanitaires. Alors dans un sens, c'est encourageant, car cela montre qu'il y a toujours une porte de sortie possible, même aux pires horreurs qui puissent nous arriver. Et donc nous aussi, on devrait pouvoir s'en sortir. Le problème, c'est qu'il y a encore une autre injustice dans la vie, une injustice de plus, une injustice face à l'injustice. C'est que nous n'avons pas tous cette force-là, en particulier face au malheur, et encore plus face à l'injustice ou à l'humiliation. Il arrive que des personnes formidables, de bonté, de sagesse et de foi, s'écroulent à bout de force. Car l'injustice crée la colère et que la colère nous emporte et qu'elle supprime notre volonté, notre intelligence. Et l'humiliation peut faire éclater nos forces, notre courage, briser notre cœur, tuer même jusqu'au sentiment que nous avons de l'amour de Dieu pour nous. C'est d'autant plus le cas que les malheurs frappent parfois en rafale. C'est Chirac qui disait que les emmerdes volent en escadrille, et c'est bien vrai, je pense. C'est pas qu'un hasard, c'est parce que déjà affaibli par un premier coup, il est plus facile de tomber malade ou d'avoir un accident, ou même d'avoir un coup de folie, comme Caïn dans ce récit. À ce propos, il y a, je pense, un mot très dangereux dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, à mon avis, qui est par ailleurs une lettre merveilleuse. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Paul nous dit que Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et Dieu, avec l'épreuve, préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors c'est souvent vrai, en fait. Et nous verrons par la suite qu'est-ce que fait Dieu pour nous aider à nous en sortir, à nous donner les forces pour s'en sortir. Mais ce verset est néanmoins très dangereux, en fait. Il est culpabilisant pour celui qui n'arriverait pas à remonter la pente après une terrible épreuve de la vie. Non seulement la personne qui est ainsi blessée par une injustice, par la maladie, une catastrophe ou je ne sais quoi, mais en plus ce verset ajoute à cette blessure, à ces problèmes de vivre, ce verset ajoute l'humiliation en déclarant celui qui n'arrive pas à s'en sortir coupable de ne pas arriver à s'en sortir. Car s'il avait assez de foi, forcément, Dieu lui aurait donné la force de tenir bon. Eh bien non, ce n'est pas toujours le cas. D'accord avec Paul, Dieu ouvre toujours des portes de sortie. Je pense sincèrement qu'il y a des portes de sortie, même dans les situations les plus terribles. Donc ça, d'accord. Mais pour ce qui est d'avoir des forces, il arrive que la souffrance, la colère, les coups répétés, la perte de confiance en nous, nous fasse perdre nos moyens et que les difficultés soient plus fortes que nous. Et que ça ne soit pas par manque de foi, et encore moins par manque de bonne volonté de la part de Dieu. Mais tout le monde n'a pas la force de l'apôtre Paul face aux difficultés, même si peut-être que Paul, par humilité, a pensé que tout le monde pouvait supporter ce qu'il a supporté et que sa force, en fait, venait de Dieu et pas seulement de lui-même. Bon, c'est sympa de la part de Paul d'avoir cette humilité, mais je ne crois pas que ça soit tout à fait le cas. Il a sous-estimé, je pense, la part de sa propre force. Il faut, à mon avis, au moins lire ce passage de Paul collectivement. Et là, peut-être qu'il est déjà un peu plus vrai. Oui, ensemble, quand la compassion et le soutien mutuel jouent pleinement, eh bien, celui qui est fort à un moment donné, venant en aide à celui qui faiblit à un moment donné, nous avons alors plus de chances d'avoir ensemble les forces de nous en sortir. Et il y a alors moins d'exceptions à ce que dit l'apôtre Paul. Mais parfois, ces forces ne suffisent quand même pas, et parfois, il y a des gens qui se retrouvent tout seuls, sans personne pour les entourer. Et donc, le premier des combats pour la justice est peut-être celui-là, plus que n'importe quel autre combat, peut-être. Faire que celui qui est terrassé par l'injustice ne se sente pas seul, et encore moins jugé, mais un peu soutenu. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait en allant vers notre Caïn, submergé par la colère et humilié plus bas que terre. Et je pense que c'est ce qu'aurait dû faire Abel. Il aurait pu sentir que son frère n'était pas en forme, surtout quand il est venu vers lui, avec une tête qui devait en dire long, je pense. Mais Abel venait de remporter un grand succès, et il n'y a pas que le malheur qui nous étourdit finalement, le triomphe aussi, comme le montrait déjà l'histoire d'Adam et Ève. Mais Dieu se penche vers Caïn et lui parle. Alors à chaque fois que la Bible nous dit « Dieu lui parle, Dieu dit, l'Éternel parla, l'Éternel dit », c'est dans la prière que nous sommes invités à vivre cette expérience dont parle la Bible. La première parole de Dieu pour Caïn est « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Encore une fois, la question n'est pas de chercher « Pourquoi est-ce que ce malheur m'est arrivé ? C'est la faute à qui ?» Puisque de toute façon, Dieu ne veut pas le malheur, pas même celui du coupable, et donc tout malheur est injuste à ses yeux. Et puis c'est passé, c'est arrivé. Et donc la question aujourd'hui, c'est plutôt un pourquoi qui est posé sur l'étape suivante, sur la façon de vivre le malheur qui nous est arrivé. Et cette question qui est proposée ici dans la Bible me semble intéressante. Cette question est même complexe, elle est ambivalente, comme souvent dans un passage un peu riche de la Bible. Lama en hébreu veut dire à la fois « pourquoi » en un mot, mais aussi « pour quoi » en deux mots, « dans quel but ». Et cette double question ouvre déjà une brèche dans notre enfermement, celui de notre colère et de notre humiliation. D'abord le « pourquoi » en un mot, « pourquoi es-tu irrité, abattu ?»« Parce que je t'aurais abandonné ?» demande l'Éternel. « Mais je suis là, » nous dit-il. Manifeste-t-il à Caïn. Alors est-ce que tu es abattu, irrité, parce que le malheur t'a frappé ? Eh bien oui, pourrait dire Dieu, parce que avec toi je suis irrité et tu as bien raison d'être irrité de l'injustice de la vie. C'est une chose que je ne supporte pas non plus, dit l'Éternel à toutes les pages de la Bible. Une chose que je dénonce à haute voix, cette injustice, cette humiliation de l'homme. Une chose sur laquelle je travaille chaque jour. Et pour laquelle j'embauche, tiens. Ensuite, parce que Dieu est source de résurrection, on peut avec lui passer au pourquoi en deux mots, finalement. À la recherche des pourquoi, des pour, en vue de quoi possible. C'est-à-dire se demander comment transformer le pire des présents en un futur qui ne serait pas si mal que ça, quand même. Un futur qui n'est pas un retour au passé de la situation précédente, avant le malheur, mais à autre chose qui est peut-être encore mieux que tout ce qui avait pu être imaginé avant. Et finalement, ces deux pourquoi sont encore tout douloureux, comme un accouchement, mais ils sont déjà un amour de la vie, parce qu'en fait, l'amour est comme ça. On aime ce que l'on aime tels qu'ils sont aujourd'hui, avec leurs qualités et avec leurs défauts, et jamais on abandonne quand même d'essayer qu'ils aillent mieux encore. Eh bien, commencer à aimer la vie, notre vie, aimer ce monde en vérité, c'est ça également. Alors c'est vrai que la vie est injuste et humiliante, mais arrive à défaut d'arriver à voir encore tout de suite aujourd'hui que la vie est aussi merveilleuse par certains côtés. On peut au moins reconnaître à la vie cette qualité, c'est d'être vivante. Et donc elle a cette qualité d'évoluer, même si c'est au pas de la tortue. Et donc se demander « pourquoi suis-je abattu ?» c'est déjà sortir de son malheur, c'est déjà le regarder de haut, comme un peu de l'extérieur, et c'est déjà une révolte contre ce malheur. Et cela permet peut-être de commencer à en avoir assez, d'être irrité et d'être abattu. Il n'est pas tellement évident, finalement, d'avoir envie de s'en sortir. Car dans notre révolte contre l'injustice, nous avons parfois l'impression que si l'on s'en sortait, ça dirait à la face du monde que l'injustice qui nous a frappés n'était finalement pas si grave que ça. Eh bien non, on pourra continuer à combattre ce type d'injustice, mais c'est parce qu'elle est grave qu'on ne peut pas la laisser victorieuse. Et donc cette révolte contre la souffrance, contre l'injustice et contre l'humiliation dont nous sommes victimes, nous ou notre prochain, elle nous donne de savoir faire la distinction entre la lumière et les ténèbres, entre le juste et l'injuste. Et donc c'est une saine révolte finalement. Et comme le dit Jésus, la lumière étant venue dans le monde, ce serait alors un sacré gâchis de préférer les ténèbres à la lumière ou de laisser vaincre les ténèbres contre la lumière. Et donc vient ensuite le pourquoi en deux mots. Et c'est un maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et choisir la lumière et travailler pour que la lumière l'emporte. L'Éternel poursuit effectivement en disant à Caïn, si tu fais le bien, n'y aura-t-il pas une élévation ? Eh bien, c'est évident, finalement, car le moindre geste positif est déjà une percée dans l'enfermement de la colère. Déjà, il nous ouvre sur autre chose que de ruminer toujours l'injustice passée. Le moindre petit geste positif est déjà une trace de bonté et de justice dans cette ténèbre, dans cette vie qui est la nôtre. Et en plus, une justice dont nous sommes l'auteur. Et déjà, c'est la fin de l'abattement. Nous ne sommes plus un ver de terre qui encaissons, qui subissons. Ce petit geste positif, le moindre petit geste positif, est déjà une élévation, déjà de la vie qui monte. Alors oui, face à l'injustice, au fond de l'irritation et de l'humiliation, l'histoire de Caïn ne nous demande pas de cesser d'être en colère, ou de cesser d'être abattu. Par définition, ce genre de choses ne se contrôle pas, ne se maîtrise pas. Mais il nous propose de choisir de faire deux petites choses très concrètes, finalement, de prier ces deux pourquoi, et de faire le moindre petit geste positif possible aujourd'hui, encore et encore, jusqu'à ce que ça aille. Alors pour dominer cette sorte de monstre qui est tapis à notre porte, et qui menace de nous engloutir dans la folie. Alors que va faire Caïn ? Il passe directement au petit geste positif en allant parler à son frère, ce qui est excellent, ce qui est très à l'image de Dieu, qui crée la lumière par sa parole. Mais peut-être que Caïn a manqué l'étape de la prière des deux pourquoi, car il va craquer, la jalousie l'emporte, et blessé par l'injustice, il va se retourner contre celui qui a plus de chance et l'éliminer. C'est bien entendu ajouter le pire au mauvais. Caïn s'est cru trop fort. Or, la question n'est pas tant d'être fort que de se laisser fortifier, de se laisser encourager. C'est à cela que la prière des deux pourquoi nous ouvre et que le petit geste commence à incarner dans notre vie. Cette démarche, Paul la condense dans un résumé génial à la fin de cette première lettre aux Corinthiens que je critiquais tout à l'heure. Veillez, nous dit Paul, demeurez ferme dans la foi, soyez fortifiés, soyez encouragés, que de votre part au moins tout se fasse avec amour. Oui, notre Père qui es aux cieux, nourrit notre être, sème en nous quelque chose qui soit de l'ordre du pardon donné, du pardon reçu, et fait que nous ne soyons pas enfermés dans les difficultés, dans notre colère, dans l'injustice, dans notre humiliation. Oui, notre Père, délivre-nous, peut-être pas des choses mauvaises qui nous arrivent, mais délivre-nous de la racine même du mal qui est en nous. Et ça va aller.